Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre grand angle hebdo. Le sommaire, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain lors d'une allocution aux Nations Unies. Dans votre grand angle hebdo, l'ambassadrice de Palestine en France, Alaa Abou Hassira. La propagation de la famine dans la bande de Gaza, nous écouterons le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Tamin Al-Retan. Personne n'est épargné par les tirs israéliens dans l'enclave palestinienne, c'est ce que souligne le président de Médecins du Monde. Vous entendrez le docteur Jean-François Corti. L'Iran a accepté de reprendre les discussions sur son programme nucléaire avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Des discussions ce vendredi à Istanbul. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, nous dira pourquoi l'Iran a accepté la tenue de ces pourparlers. Le président palestinien a salué l'annonce d'Emmanuel Macron de la reconnaissance prochaine d'un État de Palestine. Mahmoud Abbas parle d'une victoire pour la cause palestinienne. Cela reflète, selon ses mots, l'engagement de la France à soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes à sa terre et sa patrie. Le président français a annoncé ce jeudi que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain à New York. Réaction de l'ambassadrice de Palestine en France, Alaa Abou Hassira.
Nous saluons cette annonce historique du président Macron de reconnaître l'État de Palestine par la France en septembre prochain. Le président palestinien a salué cette annonce, le ministère des Affaires étrangères palestinien également l'a fait, le vice-président. C'est une annonce qui est en conformité avec le droit international, avec la justice. Et c'est une reconnaissance qui serait en conformité avec l'héritage de la France, avec les valeurs républicaines et universelles que nous partageons. Nous espérons que cette reconnaissance va contribuer à créer une vraie perspective politique qui mettrait terme d'abord à l'occupation militaire israélienne, à la colonisation israélienne et à la politique de nettoyage ethnique perpétrée contre le peuple palestinien. Il ne faut pas oublier que cette décision française intervient dans un moment catastrophique pour le peuple palestinien qui subit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide dans la bande de Gaza où Israël utilise la famine comme une arme de guerre contre une population civile qui doit être protégée, intervient dans un moment où nous appelons en toute urgence à acter un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et permettre en urgence l'entrée d'une aide humanitaire massive pour secourir à notre population. Nous appelons aussi que cette reconnaissance soit accompagnée par des sanctions fortes contre Israël, notamment un embargo immédiat et total sur les ventes d'armes destinées à Israël et l'arrêt de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël.
Justement, cette annonce intervient alors que Gaza fait l'objet d'un blocus total depuis mars dernier, que la colonisation en Cisjordanie s'intensifie, l'existence d'un État palestinien viable, souverain, reste possible.
C'est le seul choix. C'est la seule possibilité, c'est d'aider à concrétiser cet État palestinien que Israël fait tout son maximum pour empêcher l'existence de l'État de Palestine, le renforcement de ses institutions et sa viabilité. C'est la seule solution qui peut garantir la paix et la sécurité. Il n'y a pas de solution militaire pour la question palestinienne. La solution est politique et la solution est basée sur le droit international et sur les droits des peuples à l'autodétermination et à se disposer de eux-mêmes.
L'ambassadrice de Palestine en France, Alaa Abou Hassira, depuis que l'armée israélienne a placé la bande de Gaza sous blocus humanitaire début mars, une centaine d'habitants sont morts de faim. Un bilan qui risque de s'aggraver très vite alors que 600 000 personnes souffrent de malnutrition. Le responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a fait état d'une malnutrition infantile qui explose dans la la bande de Gaza, avec un enfant sur cinq qui souffre de malnutrition. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Tamin Al-Retan.
Selon les principes ou la classification pour l'insécurité alimentaire, qui est une forme de classement international reconnu, dans le mois de mai, on parlait déjà d'une situation d'insécurité alimentaire sévère pour la totalité des résidents de la bande de Gaza. On parlait de 470 000 personnes environ dans une situation de famine catastrophique. Il est probable que ces chiffres aient augmenté depuis, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de personnes dans la bande de Gaza qui ont faim aujourd'hui, qui ont le droit à l'alimentation.
Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Tamin Al-Retan. Personne n'est épargné dans la bande de Gaza, c'est ce que souligne le président de Médecins du Monde, le docteur Jean-François Corti.
Tout le monde est effectivement à risque. Il y a plus de 400 humanitaires qui ont été tués depuis le lendemain du 7 octobre 2023. Médecins du Monde, nous avons perdu un médecin ainsi qu'une grande partie de sa famille. Des centaines de soignants ont été tués aussi, soit à domicile, soit dans l'exercice de leur métier. Et puis c'est au moins 200 journalistes aussi tués de manière ciblés aussi parce qu'ils rapportaient et qu'ils témoignaient de la situation. Aujourd'hui, effectivement, ce qui est encore plus grave, je dirais, même si c'est difficile de faire une gradation dans l'horreur, c'est que tout le monde est impacté, y compris les classes moyennes ou supérieures qui pouvaient jusqu'à présent encore acheter un peu de nourriture avec de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien à acheter. On n'arrive plus à faire entrer de l'argent pour que notamment les équipes puissent se nourrir correctement. Et donc, vous avez la communauté humanitaire aussi qui est en train de voir ses équipes souffrir dans des conditions de pénurie maximale. Les humanitaires ont aussi beaucoup perdu de collègues dans différents conflits. Avoir des collègues qui meurent sous les bombes, c'est grave, exceptionnel, mais ça peut arriver. C'est arrivé massivement à Gaza, mais aujourd'hui, effectivement, il y a l'impact du siège, des pénuries, de la faim, qui commence à toucher tout le monde. Et ça, effectivement, c'est assez exceptionnel. On a rarement vu des humanitaires mourir de faim. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, même si aujourd'hui, tous les déterminants font qu'on peut envisager sérieusement ce scénario catastrophe.
L'Iran a accepté de reprendre les discussions sur son programme nucléaire avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Des discussions ce vendredi à Istanbul, un mois après la fin de la guerre de 12 jours, lors de laquelle Israël a ciblé des installations militaires et scientifiques. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, nous dit pourquoi, selon lui, l'Iran a accepté la tenue de ces pourparlers.
Alors, les relations avec les Européens sont complexes. C'est le format ce qu'on appelle UE3, en l'occurrence, les trois signataires de l'accord européen, de l'accord de 2015. Dans un premier temps, l'Iran, d'ailleurs, a tergiversé par rapport à ces possibles négociations, en évoquant le fait que les Européens, effectivement, n'avaient pas finalement été pour partie responsables de l'échec de l'accord de 2015, notamment qui prévoyait la relance des relations commerciales, qui avait été hypothéqué par le droit extraterritorial américain, effectivement, puisque les Américains s'étaient retirés en 2018 et que les Européens n'avaient pas été en situation de faire possible. Concrètement, le retour des relations économiques avec Téhéran, c'est un reproche fondamental qui est fait, mais qui est en même temps qui masque la faiblesse de la position iranienne aujourd'hui, qui se retrouve avec l'épée de Damoclès, agité délibérément d'ailleurs par les Européens, de ce qu'on appelle le snapback, c'est-à-dire ce mécanisme qui était prévu par la résolution 2231 de 2015, qui encadrait l'accord, le fameux JCPOA, l'accord sur le nucléaire, un mécanisme qui prévoit le retour potentiel de sanctions en cas du constat d'infraction caractérisée de Téhéran par rapport à ses engagements, sur la base, par exemple, d'un rapport de l'AIEA, ce qui a été le cas en mai dernier. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté de Téhéran d'essayer d'affaiblir la position des Européens pour éviter l'activation de ce mécanisme, mais c'est vraisemblablement pas ça qui sera susceptible de l'empêcher.
On le comprend à travers votre propos, hein. L'Iran accepte ces négociations avec, si je puis dire, le couteau sous la gorge.
Oui, et probablement avec l'idée éventuellement de gagner du temps, justement, par rapport à l'horloge qui tourne. J'évoque l'horloge qui tourne, puisque théoriquement, le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, devient caduc formellement, puisqu'il est déjà substantiellement, en réalité, on l'a vu, le 18 octobre prochain. Or, il se trouve qu'à partir du 18 octobre prochain, théoriquement, la résolution 2231 devient inactive également, ce qui rendrait impossible la mise en œuvre du fameux snapback, c'est-à-dire le cliquet qui est le rétablissement potentiel de toutes les sanctions internationales qui avaient été levées en 2015, justement, à la signature de cet accord, et sanctions qui, effectivement, pourraient être rétablies. Puisque le snapback, c'est un mécanisme assez particulier qu'on appelle un veto inversé, c'est-à-dire qu'il suffit d'un signataire de cet accord sur le nucléaire constate une infraction et demande l'examen de cette infraction devant le Conseil de sécurité pour que, si elle est constatée effectivement, les autres ne soient pas en mesure de bloquer la réinstauration des sanctions.
Le chercheur David Rigoulet-Rose, fin de ce grand angle hebdo. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.